Chapitre 11. Derrière la tapisserie, le bonnet rouge. Le soir, à l'heure dite, Dumouriez entra avec les quatre dépêches. De Graff et Cahier de Gerville étaient déjà réunis et attendaient le roi. Comme si le roi lui-même n'eût attendu que l'entrée de Dumouriez pour paraître, à peine celui-ci fut-il entré par une porte que le roi entra par l'autre. Les deux ministres se levèrent vivement. Dumouriez était encore debout et n'eut besoin que de s'incliner. Le roi salua d'un signe de tête. Puis, prenant un fauteuil et se plaçant au milieu de la table, « Messieurs, dit-il, asseyez-vous. » Il sembla alors à Dumouriez que la porte par laquelle venait d'entrer le roi était restée ouverte et que la tapisserie s'agitait. Était-ce le vent? Était-ce le contact d'une personne écoutant à travers ce voile qui interceptait la vue, mais laissait passer le son? Les trois ministres s'assirent. « Avez-vous vos dépêches, monsieur ?» demanda le roi à Dumouriez. « Oui, sire. » Et le général tira les quatre lettres de sa poche. « À quelle puissance sont-elles adressées ?» demanda le roi. « À l'Espagne, à l'Autriche, à la Prusse et à l'Angleterre. Lisez-les. » Dumouriez jeta un second regard vers la tapisserie et, à son mouvement, il fut convaincu que quelqu'un écoutait. Il commença la lecture des dépêches d'une voix ferme. Le ministre parlait au nom du roi, mais dans le sens de la Constitution, sans menace, mais aussi sans faiblesse. Il discutait les véritables intérêts de chaque puissance relativement à la Révolution française. Comme chaque puissance se plaignait de son côté des pamphlets jacobins, il rejetait ses injures méprisables sur cette liberté de la presse dont le soleil fait éclore tant de vermine impure, mais en même temps mûrie de si riches nations. Enfin, il demandait la paix, au nom d'une nation libre dont le roi était le représentant héréditaire. Le roi écouta, et à chaque nouvelle dépêche prêta une attention plus soutenue. « Ah, dit-il, lorsque Dumouriez eut fini, je n'ai encore rien entendu de pareil, général. » Voilà comment les ministres devraient toujours écrire et parler au nom des rois, dit Cahier de Gerville. Eh bien, reprit le roi, donnez-moi ces dépêches, elles partiront demain. Sire, les courriers sont prêts et attendent dans la cour des Tuileries, dit Dumouriez. J'eusse désiré en garder un double pour le communiquer à la reine, fit le roi avec un certain embarras. J'ai prévu le désir de votre majesté, dit Dumouriez, et voici quatre copies certifiées par moi conformes. « Faites donc partir vos lettres, dit le roi. » Dumouriez alla jusqu'à la porte par laquelle il était entré. Un aide de camp attendait, il lui remit les lettres. Un instant après, on entendit le galop de plusieurs chevaux qui sortaient ensemble de la cour des Tuileries. « Soit, dit le roi, répondant à sa pensée, lorsque ce bruit significatif fut éteint. « Et maintenant voyons votre ministère. » « Sire, dit Dumouriez, je désirerais d'abord que votre majesté priât M. Cahier de Gerville de vouloir bien demeurer des nôtres. »« Je l'en ai déjà prié, dit le roi. »« Et j'ai eu le regret de persister dans mon refus, sire. Ma santé se détruit de jour en jour et j'ai besoin de repos. »« Vous l'entendez, monsieur, dit le roi en se tournant du côté de Dumouriez. »« Oui, sire. »« Eh bien, insista le roi, vos ministres, monsieur. » « Nous avons monsieur de Grave qui veut bien nous rester. » De Grave étendit la main. « Sire, dit-il, le langage de monsieur Dumouriez vous a étonné tout à l'heure par sa franchise. Le mien va vous étonner bien davantage par son humilité. »« Parlez, monsieur, dit le roi. »« Tenez, sire, reprit de Grave, tirant de sa poche un papier. Voici une appréciation un peu sévère mais assez juste. » « Que fait de moi une femme de beaucoup de mérite? Ayez la bonté de la lire. » Le roi a pris le papier et lut. « De Grave est à la guerre. C'est un petit homme à tous égards. La nature l'a fait doux et timide. Ses préjugés lui commandent la fierté, tandis que son cœur lui inspire d'être aimable. Il en résulte que, dans son embarras de tout concilier, il n'est véritablement rien. » Il me semble le voir marcher en courtisan derrière le roi, la tête haute sur son faible corps, montrant le blanc de ses yeux bleus qu'il ne peut tenir ouvert après le repas qu'à l'aide de trois ou quatre tasses de café, parlant peu, comme par réserve, mais en réalité parce qu'il manque d'idées. et perdant si bien la tête au milieu des affaires de son département qu'un jour ou l'autre, il demandera à se retirer. En effet, dit Louis XVI, qui avait hésité à lire jusqu'au bout et qui ne l'avait fait que sur les invitations de monsieur de Grave lui-même, voilà bien une appréciation de femme. Serait-ce de madame de Staël ? Non, c'est plus fort que cela, c'est de madame Roland, sire. Et vous disiez, monsieur de Grave, que tel était votre avis sur vous-même ? En beaucoup de points, sire. Je resterai donc au ministère jusqu'au moment où j'aurai mis mon successeur au courant, après quoi je prierai sa majesté de recevoir ma démission. Vous avez raison, monsieur, voilà un langage encore plus étonnant que celui de monsieur Dumouriez. J'aimerais, si vous tenez absolument à vous retirer, recevoir un successeur de votre main. J'allais prier votre majesté de me permettre de lui présenter monsieur Servant, honnête homme dans toute l'étendue du mot, d'une trempe solide, de mœurs pures, avec toute l'austérité d'un philosophe et la bonté d'un cœur de femme. En outre, sire, patriote éclairé, militaire courageux, ministre vigilant. Va pour monsieur Servant. Nous voilà donc avec trois ministres, monsieur Dumouriez aux affaires étrangères, monsieur Servant à la guerre, monsieur Lacoste à la marine. Qui mettons-nous aux finances ? Monsieur Clavière, sire, si vous le voulez bien, c'est un homme qui a de grandes connaissances financières et une suprême habileté au maniement de l'argent. Oui, dit le roi, en effet, on le dit actif et travailleur, mais irascible, opiniâtre, pointilleux et difficile dans les discussions. Ce sont là les défauts communs à tous les hommes de cabinet, sire. Passons donc par-dessus les défauts de monsieur Clavière. Voilà monsieur Clavière, ministre des Finances. Voyons la justice, à qui la donnerons-nous ? On me recommande, sire, un avocat de Bordeaux, monsieur Duranton. La Gironde, bien entendu. Oui, sire, c'est un homme assez éclairé, très droit, très bon citoyen, mais faible et lent. Nous lui mettrons le feu sous le ventre et nous serons forts pour lui. Reste l'intérieur. L'avis unanime, sire, est que ce ministère convient à monsieur Roland. À madame Roland, vous voulez dire ? Ah, monsieur et madame Roland, vous les connaissez ? Non, sire, mais à ce qu'on assure, l'un ressemble à un homme de Plutarque, l'autre à une femme de Tite-Live. Savez-vous comment on va appeler votre ministère, monsieur Dumouriez, ou plutôt comment on l'appelle déjà ? Non, sire, le ministère sans culotte. J'accepte la dénomination, sire, on verra d'autant mieux que nous sommes des hommes. Et tous vos collègues sont prêts ? La moitié d'entre eux à peine sont prévenus. Ils accepteront, j'en suis sûr. Eh bien, allez, monsieur, et à après-demain le premier conseil. À après-demain, sire. Vous savez, dit le roi, en se retournant vers Caillé de Gerville et de Graffe, que vous avez jusqu'à après-demain pour faire vos réflexions, messieurs. Sire, nos réflexions sont faites, et nous ne viendrons après-demain que pour installer nos successeurs. Les trois ministres se retirèrent. Mais avant qu'ils eussent gagné le grand escalier, un valet de chambre les rejoignait, et s'adressant à Dumouriez, « Monsieur le général, dit-il, le roi vous prie de me suivre, il a quelque chose à vous dire. » Dumouriez salua ses collègues, et restant en arrière, « Le roi ou la reine » dit-il. « La reine, monsieur, mais elle a jugé inutile de faire savoir à ces deux messieurs que c'était elle qui vous demandait. » Dumouriez secoua la tête. « Ah, voilà ce que je craignais, dit-il. « Refusez-vous, monsieur ?» demanda le valet de chambre, qui n'était autre que Weber. « Non, je vous suis. Venez. » Le valet de chambre, par des corridors à peine éclairés, conduisit Dumouriez à la chambre de la reine. Puis, sans annoncer le général par son nom, « Voici la personne que votre majesté demande, » dit le valet de chambre. Dumouriez entra. Jamais, au moment d'exécuter une charge ou de monter à la brèche, son cœur n'avait battu si violemment. C'est que, il le comprenait bien, jamais il n'avait couru le même danger. Le chemin qu'on venait de lui ouvrir était semé de cadavres, ou morts ou vivants, et il avait pu y heurter les corps de Calonne, de Necker, de Mirabeau, de Barnave et de Lafayette. La reine se promenait à grands pas, elle était très rouge. Dumouriez s'arrêta au seuil de la porte qui se referma derrière lui. La reine s'avança d'un air majestueux et irrité. Monsieur, dit-elle, abordant la question avec sa vivacité ordinaire, vous êtes tout puissant en ce moment, mais c'est par la faveur du peuple, et le peuple brise vite ses idoles. On dit que vous avez beaucoup de talent. Ayez d'abord celui de comprendre que ni le roi ni moi ne pouvons souffrir toutes ces nouveautés. Votre constitution est une machine pneumatique, la royauté y étouffe faute d'air. Je vous ai donc envoyé chercher pour vous dire, avant que vous alliez plus loin, de prendre votre parti et de choisir entre nous ou les Jacobins. « Madame, répondit Dumouriez, je suis désolé de la pénible confidence que me fait votre majesté, mais ayant deviné la reine derrière le rideau où elle était cachée, je m'attendais à ce qui arrive. En ce cas, vous avez préparé une réponse, dit la reine. La voici, madame, je suis entre le roi et la nation, mais avant tout, j'appartiens à la patrie. » « à la patrie !» répéta la reine. « Mais le roi n'est donc plus rien, que tout le monde appartient maintenant à la patrie et personne à lui. »« Suffit, madame, le roi est toujours le roi, mais il a fait serment à la Constitution, et du jour où ce serment a été prononcé, le roi doit être un des premiers esclaves de cette Constitution. »« Serment forcé, monsieur, serment nul !» Dumouriez resta un instant muet, et comédien habile regarda pendant cet instant la reine avec une profonde pitié. « Madame, reprit-il enfin, permettez-moi de vous dire que votre salut, celui du roi, celui de vos augustes enfants, est attaché à cette constitution que vous méprisez et qui vous sauvera si vous consentez à être sauvé par elle. Je vous servirai mal, madame, et je servirai mal le roi si je vous parlais autrement. » Mais la reine, l'interrompant avec un geste impérieux, « Oh, monsieur, monsieur, dit-elle, vous faites fausse route, je vous assure. » Puis, avec un indéfinissable accent de menace, « Prenez garde à vous, » ajouta-t-elle. « Madame, répondit Dumouriez d'un ton parfaitement calme, j'ai plus de 50 ans, ma vie a été traversée par bien des périls, et en prenant le ministère, je me suis dit que la responsabilité ministérielle n'était point le plus grand des dangers que je courusse. « Oh !» s'écria la reine, en frappant ses mains l'une contre l'autre, « il ne vous restait plus que de me calomnier, monsieur. »« Vous calomniez, vous, madame ?»« Oui, voulez-vous que je vous explique le sens des paroles que vous venez de prononcer ?»« Faites, madame. » « Eh bien, vous venez de dire que j'étais incapable de vous faire assassiner. »« Oh, monsieur !» Et deux grosses larmes s'échappèrent des yeux de la reine. Dumouriez avait été aussi loin que possible. Il savait ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire qu'il restait encore quelques fibres sensibles au fond de ce cœur desséché. « Dieu me préserve, dit-il, de faire une pareille injure à ma reine. Le caractère de votre majesté est trop grand, trop noble, » pour inspirer au plus cruel de ses ennemis un pareil soupçon. Elle en a donné des preuves héroïques que j'ai admirées et qui m'ont attaché à elle. « Dites-vous vrai, monsieur ?» demanda la reine d'une voix dont l'émotion persistait seule. « Oh, sur l'honneur, madame, je vous le jure !»« Alors, excusez-moi, dit-elle, et donnez-moi votre bras. Je suis si faible qu'il y a des moments où je me sens près de tomber. » Et en effet, pâlissante, elle renversa sa tête en arrière. Était-ce une réalité? Était-ce un de ces jeux terribles auxquels la séduisante Médée était si habile? Dumouriez, si habile qu'il fût lui-même, s'y laissa prendre, ou, plus habile encore que la reine, feignit-il peut-être de s'y laisser prendre? « Croyez-moi, madame, dit-il, je n'ai aucun intérêt à vous tromper. J'aborde autant que vous l'anarchie et les crimes, mais croyez-moi, j'ai de l'expérience. » « Je suis mieux posé que votre majesté pour juger les événements. Ce qui se passe, ce n'est point une intrigue de monsieur d'Orléans, comme on vous l'a fait entendre. Ce n'est point l'effet de la haine de monsieur Pitt, comme vous l'avez supposé. Ce n'est pas même un mouvement populaire momentané. C'est l'insurrection presque unanime d'une grande nation contre des abus invétérés. Il y a dans tout cela, je le sais, de grandes haines qui attisent l'incendie. » Laissons de côté les scélérats et les fous. N'envisageons dans la révolution qui s'accomplit que le roi et la nation. Tout ce qui tend à les séparer tend à leur ruine mutuelle. Moi, madame, je suis venu pour travailler de tout mon pouvoir à les réunir. Aidez-moi au lieu de me contrecarrer. Vous défiez-vous de moi? Suis-je un obstacle à vos projets contre-révolutionnaires? Dites-le-moi, madame, je porte sur le champ ma démission au roi, et je vais gémir dans un coin sur le sort de ma patrie, sur le vôtre. Non, non, dit la reine, restez, excusez-moi. Moi, vous excusez, madame, oh, je vous en supplie, ne vous humiliez pas ainsi. Pourquoi ne pas m'humilier? Suis-je une reine encore? Suis-je même encore une femme? Et elle alla à la fenêtre et l'ouvrit malgré le froid du soir. La lune argentait la cime dépouillée des arbres des Tuileries. Tout le monde a le droit à l'air et au soleil, n'est-ce pas? Eh bien, à moi seul, le soleil et l'air sont refusés. Je n'ose me mettre à la fenêtre, ni du côté de la cour, ni du côté du jardin. Avant-hier, je m'y mets du côté de la cour, un canonnier de garde m'apostrophe d'une injure grossière, en ajoutant « Ah, que j'aurais du plaisir à porter sa tête au bout de ma baïonnette !» Hier, j'ouvre la fenêtre du jardin, d'un côté, je vois un homme monté sur une chaise, lisant des horreurs contre nous, de l'autre, un prêtre que l'on traîne dans un bassin, en l'accablant d'injures et de coups. Et pendant ce temps, comme si ces scènes étaient le cours ordinaire des choses, les gens qui, sans se préoccuper, jouent au ballon ou se promènent tranquillement. Ah, quel temps, monsieur, quel séjour, quel peuple! Et vous voulez que je me croie encore une reine, que je me croie encore une femme? Et la reine se jeta sur un canapé en jetant sa tête dans ses mains. Dumouriez mit un genou en terre, prit respectueusement le bas de sa robe et la baisa. « Madame, dit-il, du moment où je me charge de soutenir la lutte, vous redeviendrez la femme heureuse, vous deviendrez la reine puissante, où j'y laisserai ma vie. » Et se relevant, il salua la reine et sortit précipitamment. La reine le regarda s'éloigner d'un regard désespéré. « La reine puissante, répéta-t-elle, peut-être, grâce à ton épée, est-ce encore possible, mais la femme heureuse, jamais, jamais, jamais !» Et elle laissa tomber sa tête entre les coussins du canapé en murmurant un nom qui chaque jour lui devenait plus cher et plus douloureux, le nom de Charny. Dumouriez s'était retiré aussi rapidement qu'on l'a vu, d'abord parce que ce désespoir de la reine lui était pénible. Dumouriez, assez peu touché par les idées, l'était beaucoup par les personnes. Il n'avait aucun sentiment de la conscience politique, mais il était très sensible à la pitié humaine. Puis Brissot l'attendait pour le conduire aux Jacobins, et Dumouriez ne voulait pas tarder à faire sa soumission au terrible club. Quant à l'Assemblée, il s'en inquiétait peu du moment où il était l'homme de Pétion, de Jansonnet, de Brissot et de la Gironde. Mais il n'était pas l'homme de Robespierre, de Collot d'Herbois et de Couthon, et c'était Collot d'Herbois, Couthon et Robespierre qui menaient les Jacobins. Sa présence n'était point prévue. C'était un coup par trop audacieux à un ministre du roi de venir aux Jacobins. Aussi, à peine son nom eut-il été prononcé que tous les regards se tournèrent vers lui. Qu'allait faire Robespierre à cette vue? Robespierre se retourna comme les autres, prêta l'oreille au nom qui volait de bouche en bouche, puis, fronçant le sourcil, redevint froid et silencieux. Un silence de glace se répandit aussitôt dans la salle. Dumouriez comprit qu'il lui fallait brûler ses vaisseaux. Les Jacobins venaient, comme signe d'égalité, d'adopter le bonnet rouge. Trois ou quatre membres seulement avaient sans doute jugé que leur patriotisme était assez connu pour ne pas avoir besoin d'en donner cette preuve. Robespierre était du nombre. Dumouriez n'hésite pas, il jette son chapeau loin de lui, prend sur la tête du patriote auprès duquel il est assis le bonnet rouge qui la coiffe, se l'enfonce jusqu'aux oreilles et monte à la tribune, arborant le signe de l'égalité. La salle tout entière éclata en applaudissements. Quelque chose de pareil au sifflement d'une vipère serpenta au milieu de ces applaudissements et les éteignit tout à coup. C'était le « chut » sorti des lèvres minces de Robespierre. Dumouriez avoua plus d'une fois depuis que jamais le sifflement des boulets passant à un pied au-dessus de sa tête ne l'avait fait en frissonner que le sifflement de ce « chut » échappé des lèvres de l'ex-député d'Arras. Mais c'était un rude jouteur que Dumouriez, général et orateur à la fois, difficile à démonter sur le champ de bataille et à la tribune. Il attendit avec un calme sourire que ce silence glacial fût bien établi, et d'une voix vibrante, « Frères et amis, dit-il, tous les moments de ma vie vont désormais être consacrés à faire la volonté du peuple et à justifier la confiance du roi constitutionnel. Je porterai dans mes négociations avec l'étranger toutes les forces d'un peuple libre, et ces négociations produiront sous peu ou une paix solide ou une guerre décisive. » Ici, malgré le chute de Robespierre, les applaudissements éclatèrent de nouveau. « Si nous avons cette guerre, continua l'orateur, je briserai ma plume politique et je prendrai mon rang dans l'armée pour triompher ou mourir libre avec mes frères. Un grand fardeau pèse sur mes épaules. Frères, aidez-moi à le porter, j'ai besoin de conseils, et faites-les-moi passer par vos journaux. Dites-moi la vérité la plus pure, mais repoussez la calomnie. » Et ne repoussez pas un citoyen que vous connaissez sincère et intrépide et qui se dévoue à la cause de la Révolution. Dumouriez avait fini, il descendit au milieu des applaudissements. Ces applaudissements irritèrent Collot-d'Herbois, l'acteur si souvent sifflé, si rarement applaudi. « Pourquoi ces applaudissements ? » cria-t-il de sa place. « Si Dumouriez vient ici comme ministre, il n'y a rien à lui répondre. S'il y vient comme affilié et comme frère, il ne fait que son devoir et se met au niveau de nos opinions. Nous n'avons donc qu'une réponse à lui faire, qu'il agisse comme il a parlé. » Dumouriez jeta de la main un signe qui voulait dire « C'est ainsi que je l'entends. » Alors Robespierre se leva avec son sourire sévère. On comprit qu'il voulait aller à la tribune. On s'écarta, qu'il voulait parler. On se tut. Seulement ce silence, comparé à celui qui avait accueilli Dumouriez, était doux et velouté. Il monta à la tribune et, avec une solennité qui lui était habituelle, « Je ne suis point de ceux, dit-il, qui croient absolument impossible qu'un ministre soit patriote, mais même j'accepte avec plaisir les présages que M. Dumouriez nous donne. » Quand il aura accompli ses présages, quand il aura dompté les ennemis armés contre nous par ses prédécesseurs et par les conjurés qui dirigent encore aujourd'hui le gouvernement, malgré l'expulsion de quelques ministres, alors, seulement alors, je serai disposé à lui décerner des éloges. Mais même alors, je ne penserai point que tout bon citoyen de cette société ne soit pas son égal. Le peuple seul est grand, seul est respectable à mes yeux. Les hochets de la puissance ministérielle s'évanouissent devant lui. C'est par respect pour le peuple, pour le ministre lui-même, que je demande qu'on ne signale point son entrée ici par des hommages qui attesteraient la déchéance de l'esprit public. Il nous demande des conseils, je promets, pour ma part, de lui en donner qui seront utiles à lui et à la chose publique. Aussi longtemps que M. Dumouriez, par des preuves éclatantes de patriotisme et surtout par des services réels rendus à la patrie, prouvera qu'il est le frère des bons citoyens et le défenseur du peuple, il n'aura ici que des soutiens. Je ne redoute pour cette société la présence d'aucun ministre, mais je déclare qu'au moment où un ministre y aurait plus d'ascendant qu'un citoyen, je demanderai son ostracisme. Il n'en sera jamais ainsi. Et au milieu des applaudissements, l'aigre orateur descendit de la tribune, mais un piège l'attendait sur la dernière marche. Dumouriez, feignant l'enthousiasme, était là, les bras ouverts. « Vertueux Robespierre ! » s'écria-t-il, « incorruptible citoyen, permets que je t'embrasse !» Et malgré les efforts de l'ancien constituant, il le serra sur son cœur. On ne vit que l'acte qui s'accomplissait, et non la répugnance que Robespierre mettait à le laisser s'accomplir. La salle tout entière éclata de nouveau en applaudissements. « Venez, dit tout bas Dumouriez à Brissot, la comédie est jouée. J'ai mis le bonnet rouge et embrassé Robespierre, je suis sacro-saint. » Et en effet, au milieu des hurrahs de la salle et des tribunes, il gagna la porte. À la porte, un jeune homme, revêtu de la dignité d'huissier, échangea avec le ministre un regard rapide et une poignée de main plus rapide encore. Ce jeune homme était le duc de Chartres. 11 heures du soir allaient sonner, Brissot guidé Dumouriez, tous deux d'un pas hâtif se rendaient chez les Rolland. Les Rolland demeuraient toujours rue Guénégaud. Ils avaient été prévenus la veille par Brissot que Dumouriez à l'instigation de Gensonné et de Louis Brissot, devait présenter au roi Roland comme ministre de l'Intérieur. Brissot avait alors demandé à Roland s'il se sentait assez fort pour un pareil fardeau, et Roland, simple cette fois comme toujours, avait répondu qu'il le croyait. Dumouriez venait lui annoncer que la chose était faite. Roland et Dumouriez ne se connaissaient que de nom, ils ne s'étaient encore jamais vus. On comprend avec quelle curiosité les futurs collègues se regardèrent. Après les compliments d'usage, dans lesquels Dumouriez témoigna à Roland sa satisfaction particulière de voir appeler au gouvernement un patriote éclairé et vertueux comme lui, la conversation tomba naturellement sur le roi. « De là viendra l'obstacle, » dit Roland avec un sourire. « Eh bien, voilà où vous allez reconnaître une naïveté dont on ne me fait certes pas honneur, » dit Dumouriez. « Je crois le roi honnête homme et patriote sincère. » Puis, voyant que Madame Roland ne répondait point et se contentait de sourire, « Ce n'est point l'avis de Madame Roland ?» demanda Dumouriez. « Avez-vous vu le roi ? » dit-elle. « Oui. »« Avez-vous vu la reine ?» Dumouriez, à son tour, ne répondit pas et se contenta de sourire. On prit rendez-vous pour le lendemain, à 11 heures du matin, afin de prêter serment. En sortant de l'assemblée, on devait se rendre chez le roi. Il était 11 heures 30. Dumouriez fut bien resté encore, mais c'était tard pour de petites gens comme les Roland. Pourquoi Dumouriez fut-il resté ? Ah, voilà ! Dans le rapide coup d'œil qu'en entrant Dumouriez avait jeté sur la femme et sur le mari, il avait tout d'abord remarqué la vieillesse du mari. Roland avait 10 ans de plus que Dumouriez, et Dumouriez paraissait 20 ans de moins que Roland, et la richesse de forme de la femme. Madame Roland, fille d'un graveur, comme nous l'avons dit, avait, dès son enfance, travaillé dans l'atelier de son père, et, devenue femme, dans le cabinet de son mari. Le travail, ce rude protecteur, avait sauvegardé la Vierge comme elle devait sauvegarder l'épouse. Dumouriez était de cette race d'hommes qui ne peuvent voir un vieux mari sans rire et une jeune femme sans désirer. Aussi déplut-il à la fois à la femme et au mari. Voilà pourquoi tous deux firent observer à Brissot et au général qu'il était tard. Brissot et Dumouriez sortirent. « Eh bien, » demanda Roland à sa femme quand la porte fut refermée, « que penses-tu de notre futur collègue ?» Madame Roland sourit. « Il y a, dit-elle, des hommes qu'on n'a pas besoin de voir deux fois pour se faire une opinion sur eux. C'est un esprit délié, un caractère souple, un regard faux. Il a exprimé une grande satisfaction du choix patriotique qu'il était chargé de t'annoncer. Eh bien, je ne serais pas étonné qu'il te fît renvoyer un jour ou l'autre. » « C'est de point en point mon avis, » dit Roland, et tous deux se couchèrent avec leur calme habituel, ni l'un ni l'autre ne se doutant que la main de fer de la destinée venait d'écrire leurs deux noms en lettres de sang sur les tablettes de la Révolution. Le lendemain, le nouveau ministère prêta serment à l'Assemblée nationale, puis se rendit aux Tuileries. Roland était chaussé de souliers à cordons, parce qu'il n'avait probablement pas d'argent pour acheter des boucles. Il portait un chapeau rond, n'en ayant jamais porté d'autre. Il se rendit aux Tuileries dans son costume habituel. Il se trouvait le dernier, à la suite de ses collègues. Le maître des cérémonies, M. de Brézé, laissa passer les 5 premiers, mais arrêta Roland. Roland ignorait pourquoi on lui refusait l'entrée. « Mais moi aussi, disait-il, je suis ministre, comme les autres, ministre de l'Intérieur même. » Le maître des cérémonies ne paraissait pas convaincu le moins du monde. Dumouriez entendit le débat et intervint. « Pourquoi, demanda-t-il, refusez-vous l'entrée à Monsieur Roland ?»« Monsieur, s'écria le maître des cérémonies, se tordant le bras, un chapeau rond et pas de boucle. » « Ah, monsieur, répondit Dumouriez avec le plus grand sang-froid, un chapeau rond et pas de boucle, tout est perdu !» Et il poussa Roland dans le cabinet du roi.